Radio Kapi.
De la maladie à virus Ebola dans la partie est de la RDC, le ministre de la Santé l'a déclaré ce jeudi à Goma. Plus de 4 tonnes de minerais de coltan, estimées à une valeur de plus de 100 000 dollars américains, saisies par les services antifraude de Bukavu. Ces minerais ont été présentés hier au gouverneur du Sud Kivu. Le contexte actuel de la COVID-19 va aggraver la situation de plus de 16 millions de Congolais déjà en insécurité alimentaire. À propos de notre invité Claude Chibidar, le représentant du PAM affirme par ailleurs que la RDC peut cependant se nourrir elle-même et nourrir plus de 2 milliards d'individus en Afrique et dans le monde si elle investit sérieusement dans l'agriculture. Bonsoir à tous. Une bonne nouvelle pour ouvrir ce journal. Le ministre national de la Santé en séjour dans les chefs-lieux du Nord Kivu a déclaré ce jeudi 25 juin la fin de la maladie à virus Ebola dans la partie est de la RDC. Au total, 29 zones de santé dans les 3 provinces, Ituri, Nord et Sud Kivu, ont été touchées par cette maladie déclarée le 1er août 2018. Il est fait état de 3463 cas notifiés, 3317 confirmés, 146 cas probable et 2277 malades décédés, selon le ministre de la Santé, Dr Eteni Longondo, que nous vous proposons de suivre dans cet extrait sonore. Il est au micro de nos confrères de la cellule de communication du gouvernement.
À ce jour, du jeudi 25 juin 2020, je suis heureux de déclarer solennellement la fin de la 10e épidémie de la maladie à virus Ebola dans la partie est de la République démocratique du Congo. Je remercie particulièrement le professeur Jean-Jacques Muyembe Tanfoum ainsi que toute son équipe du secrétariat technique qui a œuvré sans relâche pour l'obtention de cette performance. Je salue singulièrement l'engagement des gouverneurs du Nord Kivu, du Sud Kivu et de celui de l'Ituri. Je ne saurais ne pas remercier les partenaires de soins de première ligne du Nord Kivu, du Sud Kivu et de l'Ituri, le relais communautaire ainsi que le cadre nationaux et provinciaux qui ont donné de leur savoir et engagement pour venir à bout de cette épidémie, parfois au péril de leur vie. La victoire sur cette longue épidémie tient aussi de la résultante de la coopération internationale à travers nombreux de nos partenaires d'appui au développement. C'est la bonne occasion pour moi de reconnaître leurs apports et contributions à la fois techniques et financiers. Avec le même engagement et la même détermination, nous avons le devoir de vaincre tous les maux qui déstabilisent la croissance et le développement de notre pays.
Situation de la pandémie du coronavirus en RDC. 198 nouveaux cas confirmés enregistrés hier, dont 182 à Kinshasa, 6 au sud Kivu, 5 au Congo central, 2 dans le Haut-Uele, 2 au nord Kivu et 1 au Kwilu. Aucun nouveau décès parmi les cas confirmés. 15 nouvelles personnes sont sorties guéries. Le total de cas depuis le 10 mars est de 6411, dont 6410 cas confirmés et 1 cas probable. 142 décès et 885 personnes guéries. 12 provinces sont touchées et Kinshasa reste la ville la plus touchée avec 5714 cas, suivi notamment du Congo central avec 298 cas et du Haut-Katanga avec 183 cas. Manifestation d'hier à Kinshasa, le président de la République condamne les violences et attaques perpétrées contre les personnes et leurs biens. Dans un communiqué signé par son directeur de cabinet intérimaire, Félix-Antoine Tshisekedi appelle tout le monde au calme et au respect de la loi. Le chef de l'État demande aux forces de l'ordre de prendre toutes les dispositions pour prévenir et contenir ces genres de manifestations. On écoute un extrait de ce communiqué, lu à la télévision nationale par Kasongo Mayamba, porte-parole du président de la République.
Président de la République, chef de l'État, demande aux forces de l'ordre de prendre toutes les dispositions utiles pour prévenir et contenir en cette période d'état d'urgence ce genre de manifestation. En même temps, le chef de l'État rappelle à la classe politique congolaise de toute tendance sa responsabilité de ne pouvoir entreprendre surtout pendant cette période d'état d'urgence, que des initiatives tendant à privilégier en toute chose l'intérêt de la nation ainsi que la paix sociale et de s'abstenir de celles tendant à diviser le peuple ou à porter atteinte aux principes d'organisation et de fonctionnement de telles ou telles institutions de la République. Enfin, tout en respectant le droit constitutionnel de manifester, le chef de l'État condamne avec véhémence les violences et attaques perpétrées ce jour contre les personnes et leurs biens. Il en appelle ainsi au calme et au respect de la loi par tous.
Au Kassai oriental, la ville de Mbujimayi s'est réveillée ce matin sous les coups de feu nourris et des gaz lacrymogènes. Un calme précaire y règne actuellement. Des jeunes non entièrement identifiés sont descendus dans la rue, scandant des slogans hostiles à certains hommes politiques, membres de la coalition FCC-Cash. Quelques résidences attaquées par les manifestants ont été endommagées. Et prévu ce jeudi, la cérémonie d'ouverture de l'Assemblée provinciale a même été renvoyée à samedi. Le maire de la ville de Mbujimayi appelle au calme. Luidor Ntumba Chapota est au téléphone d'Esther Dalafina.
Notre message, c'est de demander à notre population de garder le calme, ne chercher à appuyer rien, parce qu'il n'y a rien qui a été construit ici par qui que ce soit. Ce sont les fils du terroir. Nous devons tous nous mettre derrière le chef de l'État pour l'aider à réussir son quinquennat politique, au lieu que nous puissions essayer de nous attaquer à nos faits ou à leurs biens. J'invite tout le monde au calme, j'invite toute la population à aller dans la même direction. Donc il n'y a rien à piller ici, il n'y a personne qui est contre le pouvoir du chef de l'État, tout le monde est derrière ce pouvoir, c'est notre pouvoir. Je voudrais demander à la population d'accepter la longue liste de thèmes qui s'écrit, qui est une réclamation, mais qui se passe dans les meilleures conditions conformément à la loi. Parce qu'il n'y a rien qui est construit que nous devons détruire. Les biens que nos pères ont laissés, ce sont les biens, que ce soit des radios, que ce soit des maisons, parce que ça nous intéresse, que nous les utilisons.
Pour sa part, le Parti du Peuple pour la Reconstruction et la Démocratie, PPRD, exige des poursuites à l'encontre des auteurs intellectuels des actes de vandalisme perpétrés hier dans la capitale. Quelques résidences et immeubles appartenant aux responsables proches du FCC, dont fait partie le PPRD, ont en effet été attaqués par des manifestants. Rappelons que ces derniers dénonçaient les trois propositions de loi visant la réforme du système judiciaire congolais soumis par deux députés membres de cette classe forme politique. La réaction du PPRD est contenue dans un communiqué signé par Emmanuel Ramazani Chadari, secrétaire permanent du parti. Blaise Chindani, que retenir de ce communiqué?
Dans ce communiqué, le PPRD demande aux autorités judiciaires d'engager des poursuites à l'encontre des auteurs intellectuels de ces actes de vandalisme qu'ils qualifient d'ignobles. Le PPRD demande par ailleurs aux responsables du parti dont se réclament les fauteurs de troubles de se désolidariser publiquement de ces actes et de se déterminé quant à la nécessité de préserver un climat de paix et de concorde dans le pays. Le PPRD rappelle que la RDC est un état de droit qui protège les libertés et droits fondamentaux de chaque citoyen, notamment la liberté d'opinion, liberté de pensée, liberté d'expression, le droit à la sécurité et à la vie. Selon les PPRD, je cite, conformément à la Constitution, l'initiative parlementaire appartient concurremment au gouvernement et aux parlementaires et à ce titre, rien ne permet à un parti politique ni à un individu quelconque de s'opposer par des méthodes de rébellion, de chantage et de manipulation politicienne à l'exercice de ce droit constitutionnellement reconnu et garanti. Fin des citations. Concernant la coalition au pouvoir, le PPRD réaffirme son engagement à œuvrer pour la paix, l'unité, la concorde nationale et le développement de la RDC. Cependant, il ajoute, je le cite, « Mais si le partenaire en coalition ne veut plus de celle-ci, en ce qui nous concerne et pour la paix, nous allons tirer les conséquences constitutionnelles qui s'imposent, c'est-à-dire aller tout droit et sans hésitation à la cohabitation. » Fin des citations.
Le parti politique Congo en Avant appelle le peuple congolais à ne pas céder à la violence par rapport à la proposition des lois Sakata et Minaku. Médarkan Kolongo, président de ce parti, a lancé cet appel hier mercredi au cours d'un point de presse ici à Kinshasa. Il demande par ailleurs aux magistrats de continuer à enquêter sur les détournements présumés afin que chacun réponde devant la justice. Médarkan Kolongo est au micro de Paul Matendo.
Je demande à nos compatriotes de ne pas céder à la violence, car la violence s'appelle la violence, mais de manifester pacifiquement. J'appelle tout le monde à barrer la route comme on l'a fait en 2015. Nous devons aussi le faire aujourd'hui. Ce pays n'appartient pas aux politiciens du FCC. Cette loi va très loin jusqu'à ce que le ministre de la Justice constate le dérive des magistrats et sanctionne même. Ça, c'est grave. Congo en Avant s'y opposera. Nous voulons pousser nos magistrats, la justice, à enquêter sur le détournement. C'est la justice qui élève une nation. Vouloir étouffer la justice pour leurs propres intérêts, Congo en Avant s'oppose avec la toute dernière énergie. Je dis à notre peuple, mettons-nous debout, barrons la route aux ennemis de notre peuple.
Dans un communiqué conjoint publié hier mercredi, le comité laïque de coordination et les mouvements citoyens Lucha Filimbi et le Congolais Debout dénoncent la précipitation et la politisation dans le processus de désignation du prochain président de la Commission électorale nationale indépendante CENI. Ils estiment qu'un audit et une évaluation de la CENI ainsi qu'un consensus de principales parties prenantes sont là les préalables avant toute désignation de celui qui devrait succéder à Corneille Nanga à la tête de cette institution d'appui à la démocratie. On écoute à cet effet Maître Hervé Diakese, porte-parole du CLC, au micro de Kéline Kouté.
Nous ne pouvons pas cautionner une désignation unilatérale d'un président de la CENI sans que la société civile n'ait d'abord vidé l'hypothèque de la CENI, à savoir d'abord son rapport d'activité, et des deux, nous avons quand même constaté beaucoup d'irrégularités dans le processus électoral passé qui exigent donc des réformes substantielles qui vont au-delà de la CENI, qui concerne tous les systèmes électoraux de notre pays, pour garantir la transparence et la crédibilité des élections. Et donc, de ce fait, nous considérons que la désignation d'un président de la CENI sans avoir rempli ses préalables, c'est déjà mettre en place le décor de la tricherie des élections de 2023, raison pour laquelle nous tous voulant participer à des scrutins qui, cette fois-ci, devront répondre aux standards de crédibilité, nous ne pouvons absolument pas cautionner aujourd'hui une mainmise du processus électoral sans un consensus général sur les modalités de désignation de ses animateurs et une clarification des procédures de fonctionnement de la CENI et du système électoral en République démocratique du Congo.
Je l'ai annoncé à l'ouverture de ce journal. Au Sud Kivu, plus de 4 tonnes de minerais de coltan d'une valeur de plus de 100 000 dollars américains ont été saisies à Bukavu par les services antifraude. Ces minerais entassés dans des sacs ont été présentés hier mercredi au gouverneur de province. L'autorité provinciale réitère ainsi son engagement à lutter efficacement contre la fraude minière au Sud Kivu. Théon Kassingouabidje met ainsi en garde tous les opérateurs miniers qui choisissent la voie de la fraude qui alimente les économies des pays voisins au détriment du trésor public de la RDC. Le gouverneur du Sud Kivu est au micro d'Emmanuel Elamiche.
On a donc appréhendé 4 tonnes de coltan disséminées dans une citerne. Nous avons dit que nous devons absolument lutter contre la fraude minière qui fait perdre des millions de dollars à notre pays et à notre province, le Sud Kivu. Le responsable de cet acte répréhensible devra répondre devant la justice. Ces minéraux vont être saisis puisqu'ils n'ont pas suivi la voie normale. Et nous voulons aujourd'hui dire à tous les opérateurs égarés qui s'évertuent de continuer à faire la fraude, l'État est révolu et nous allons tout mettre pour les traquer. De façon que l'État puisse avoir les moyens, ce sont ces moyens qui vont nous permettre de continuer à faire les routes, à répondre aux problèmes de l'éducation, à impulser notre économie. Mais tant que nous n'avons pas cela, ces personnes, ce sont des criminels économiques. Tous ces mondes qui sont dans les sites d'exploitation, qui trafiquent et qui amènent les minéraux ici et ces minéraux, ça alimente d'autres économies, des pays voisins qui en profitent, au lieu que l'économie du Congo puisse en profiter. Et moi, je vous dis, au niveau du gouvernement provincial, nous avons dit, le gouverner autrement, c'est cela. Il n'y a pas que dans les cotons, dans d'autres secteurs.
Actualité internationale. Au Sénégal, les cours ont repris ces jeudis. Après un premier report au début du mois de juin, la rentrée a finalement bien eu lieu. Seuls 550 000 enfants ont fait leur retour, c'est-à-dire les classes qui donnent lieu à un examen de fin d'année. En Algérie, nouvelle série de condamnations pour des responsables de l'ex-régime Bouteflika. Ce procès s'inscrit dans la vague de poursuites liées à des affaires de corruption qui a commencé suite à la démission de l'ancien chef de l'État en avril 2019. Sur les 17 accusés dans ce procès, 15 ont été condamnés hier mercredi à de peines allant de 2 à 20 ans de prison.
L'invité.
Plus de 16 millions de personnes en RDC sont dans une situation d'insécurité alimentaire et le contexte actuel de la COVID-19 va aggraver la situation, selon le représentant du Programme alimentaire mondial, Claude Jibidar. Le haut fonctionnaire onusien estime que la RDC peut cependant se nourrir elle-même et nourrir plus de 2 milliards d'individus en Afrique et dans le monde si elle investit sérieusement dans l'agriculture. Le représentant du PAM en RDC est notre invité au téléphone. Il répond aux questions d'Honoré Sengakalala.
Monsieur Claude Jibidar, bonjour.
Bonjour.
16 millions de personnes sont en insécurité alimentaire en RDC. La mission première de votre agence, le PAM, est de fournir une aide alimentaire aux victimes des catastrophes naturelles ou provoquées par l'homme. Comment assurez-vous cette mission en cette période de la pandémie de la COVID-19, monsieur le représentant?
Tout d'abord, il faut savoir que cette pandémie, en plus des 16 millions qui étaient déjà en insécurité alimentaire, va probablement accentuer le problème des personnes les plus vulnérables, particulièrement en ce qui concerne la sécurité alimentaire. Alors la première chose que nous avons faite, c'est d'abord et avant tout d'adhérer pleinement, et même quand cela est possible, d'aller au-delà de toutes les mesures qui ont été prises par les autorités congolaises pour freiner, pour éviter la propagation de ce virus. Nous ciblons des millions de gens, donc ça veut dire que chacune de ces personnes, nous devons mettre en place tous les gestes barrières pour les protéger au moment où ces gens vont bénéficier de l'assistance alimentaire. La deuxième chose, ça a été de travailler dans les zones qui étaient déjà les plus affectées, où nous avions déjà des interventions, et voir comment est-ce que nous pouvons augmenter ces interventions dans d'autres zones.
Votre assistance est-elle une assistance en vivre ou elle revêt d'autres formes?
Alors, nous avons différents types d'assistance. Nous avons des assistances en vivres, c'est-à-dire que nous convoyons des vivres qui ont été achetés localement ou dans la région ou internationalement. Nous acheminons ces vivres dans des sites de distribution et nous donnons ces vivres-là directement aux communautés. Nous avons aussi d'autres types d'interventions qui sont des transferts monétaires, qui sont en fait de l'argent qui est donné à des communautés qui ont été ciblées et eux vont utiliser ce cash-là pour aller s'approvisionner sur le marché. Et si vous voulez, la différence qui fait que nous optons pour une ou l'autre type d'intervention, particulièrement pour ce qui est du transfert monétaire, il faut que ce soit fait dans des endroits, à des moments où des marchés existent, où les gens vont pouvoir accéder à de la nourriture, mais surtout que cet achat n'implique pas une augmentation des prix.
À l'instar de l'agence sœur, la FAO, le PAM préconise la consommation de la production locale, c'est-à-dire consommer ce que l'on produit et produire ce que l'on consomme. Pensez-vous que la RDC est capable d'atteindre cet objectif?
S'il y a un pays dans ce monde qui devrait pouvoir l'atteindre, c'est la RDC. Produisons ce que nous consommons et consommons ce que nous produisons. Je vais être honnête avec vous, il y a 12 ans exactement, j'ai prononcé cette phrase de manière répétée en Afrique de l'Ouest au moment de la crise des prix du pétrole et des prix des denrées. Il nous faut impérativement arriver à être totalement maître de nos besoins alimentaires. C'est ce que la leçon de 2008 a normalement été, c'est-à-dire le fait que nous importions des produits en masse et que le prix de ces produits, nous ne les maîtrisons pas, eh bien nous en subissons l'impact. La RDC peut produire plus qu'assez, mais il nous faut investir dans l'agriculture, il nous faut investir dans les petits producteurs agricoles. Il faut mettre en place des mécanismes pour que les gens qui produisent à côté puissent avoir tout le support pour pouvoir produire. Un producteur qui a un débouché, c'est quelqu'un qui va être motivé. Nous avons des projets que nous menons conjointement dans l'Est qui, au jour d'aujourd'hui, ciblent des centaines de milliers de Congolais où nous aidons ces petits producteurs à produire en quantité, en qualité et les aider à accéder au marché. Si C'est la saison du matimbélé, il faut manger du matimbélé. Il faut pas chercher à manger autre chose. Si c'est la saison de l'orange, il faut manger de l'orange. Si c'est la saison des haricots, il faut manger les haricots. Et c'est ça, manger ce qu'on produit et produire ce qu'on mange. Et le Congo peut le faire. Il peut le faire pour le Congo, mais il peut le faire bien au-delà, toute l'Afrique. Parce que ce pays peut nourrir, comme vous le savez peut-être, si tout est mis en place, plus de 2 milliards de personnes.
Monsieur le représentant du PAM en RDC, merci.
C'est moi qui vous remercie.
Ainsi s'achève ce journal. Merci de l'avoir suivi. Rendez-vous à 19h pour un point de l'actualité.